Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous, c'est une expression issue d'un autre temps, celui du patriarcat. Gérer les affaires de l'État comme un bon père de famille. Aujourd'hui, on dirait plutôt, de façon raisonnable, les femmes sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à gérer les budgets, que ce soit dans une entreprise ou à la tête d'un pays. Mais combien sont-ils aujourd'hui ces dirigeants et ces dirigeantes capables de ne pas entraîner leurs concitoyens ou leurs salariés dans la spirale de la dette, dette publique ou dette privée, dans un contexte économique global plus que fluctuant entre inflation persistante et risques géopolitiques? La patronne du FMI, le Fonds monétaire international, a sonné l'alerte cette semaine à Washington.
First.
D'abord, nous devons nous féliciter des bonnes nouvelles. Nous n'en avons pas eu énormément récemment. La vague de forte inflation généralisée est en train de refluer. Mais malgré ces bonnes nouvelles, ne nous réjouissons pas trop vite. Nos prévisions annoncent une combinaison de faible croissance et de forts niveaux de dette. Un avenir incertain.
Kristalina Georgieva, la directrice générale du FMI lors des assemblées annuelles, assemblées annuelles également de la Banque mondiale, qui ont réuni la plupart des décideurs économiques de la planète. L'endettement généralisé au cœur de leurs discussions, mais aussi donc des motifs d'espoir comme l'affaiblissement de l'inflation et la baisse progressive des taux d'intérêt, des tendances planétaires, mais qu'il faut bien entendu affiner zone par zone et parfois même pays par pays. C'est ce que nous allons faire cette semaine dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec deux invités de marque. Dans quelques secondes, entretien avec l'économiste en chef du FMI, le français Pierre-Olivier Gourinchat, qui compile les études sur l'économie mondiale. Il va nous en livrer l'essentiel et répondre aussi aux critiques qui visent les grandes institutions financières internationales. Et puis dans la foulée, nous serons en ligne, toujours de Washington, avec Anne-Laure Kichel, présidente de la société GSA, Global Sovereign Advisory. Elle conseille les gouvernements sur la gestion de leurs dettes souveraines et porte donc un regard précis et comparatif sur cette problématique d'Europe aux Amériques, en passant naturellement par l'Afrique. Elle nous livrera ses analyses et ses prévisions pour l'avenir. Dette, la cote d'alerte est-elle dépassée? Une émission à écouter ou réécouter sur notre plateforme Pure Radio et bien sûr en passant par le site internet de RFI sur la page d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Comment se porte l'économie mondiale après tous les épisodes que nous avons connus ces dernières années et que nous connaissons encore? Un observateur privilégié à l'échelle de la planète, le Fonds monétaire international, qui analyse en permanence les situations zone par zone, pays par pays et le cas échéant leur vient en aide pour financer des projets. Le FMI qui publie ses perspectives mondiales. J'ai le plaisir de recevoir en duplex de Washington précisément le chef économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchat. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Premier sujet de préoccupation pour le monde entier, l'inflation. Elle semble refluer globalement, mais rien n'est gagné.
Oui, alors la bonne nouvelle de notre nouveau cycle de projection, c'est effectivement que l'inflation continue à décroître, peut-être un petit peu plus lentement que lors de la première partie de l'année 2024, mais elle continue de se rapprocher des cibles de banques centrales. Et elle devrait les atteindre dans les économies avancées en 2025 et peut-être un petit peu plus tard dans les pays émergents et pays en développement. Donc on a une inflation qui est prévue à 5,8% en 2024 et qui devrait chuter au niveau global, hein, bien sûr, à 4,3% en 2025. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et pourquoi c'est une très bonne nouvelle? C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a une baisse de l'inflation sans avoir eu une récession mondiale, une économie mondiale qui est restée assez robuste. On a des prévisions de croissance de l'ordre de 3,2% pour 2024 et 3,2% pour 2025. Il n'y a pas de récession mondiale malgré les resserrements de taux directeurs des banques centrales depuis 2022. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle dans l'ensemble.
Justement, vous parlez de la politique des banques centrales, des mesures décidées par les banques centrales pour ne pas accabler les ménages et pour ne pas accabler non plus les entreprises ni la croissance. Ça a été un savant dosage de politique monétaire et puis aussi de politique fiscale de la part des gouvernements.
Alors il y a eu sur les deux dernières années effectivement un resserrement des politiques monétaires qui était nécessaire pour éviter que l'inflation ne sorte de sa boîte complètement et pour la ramener vers les cibles de banque centrale. Donc ça, c'est une bataille qui est en train d'être gagnée. La politique budgétaire, elle, est venue un peu soutenir, en particulier dans un certain nombre de pays, les ménages les plus vulnérables, ceux qui étaient plus frappés par les hausses de prix de l'énergie ou les prix des biens alimentaires. Et maintenant que c'est cette crise énergétique, entre guillemets, est derrière nous aussi, les gouvernements vont continuer à pivoter leur politique budgétaire. Donc on va avoir à la fois un assouplissement des politiques monétaires et un resserrement des politiques budgétaires.
Cette crise énergétique qui est liée aussi à la situation géopolitique internationale, aux risques géopolitiques qui finalement a des conséquences relativement peu limitées sur l'activité mondiale, sur le commerce mondial. C'est ce que vous notez ?
Alors pour l'instant, évidemment, si on revient en 2022, il y a eu un impact assez important des conditions géopolitiques, en particulier liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'augmentation des prix du gaz, en particulier en Europe, qui est venu alourdir les factures énergétiques. Mais il y a eu un reflux depuis ce pic qui a été atteint en 2022. Les prix du pétrole restent à peu près stables. Alors évidemment, il faut prendre ça avec un peu des pincettes. La situation géopolitique dans le Moyen-Orient est quelque chose qui est quand même assez fragile. Il y a beaucoup de tensions et donc il y a des possibilités de dérapage des prix du pétrole et des prix de l'énergie si jamais la situation venait à s'envenimer. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les approvisionnements ont lieu dans un contexte de demande qui est relativement modéré, puisque la croissance à 3,2%, c'est une croissance raisonnable, mais ce n'est pas une croissance superchargée. On n'est pas turbochargé en ce moment. Et donc la demande d'énergie n'est pas très très forte non plus. Et donc les prix du pétrole restent assez modérés pour l'instant.
Alors voilà pour le tableau général. Et puis d'un point de vue budgétaire, puisqu'on en parlait, il y a cette alerte générale lancée par le FMI sur l'endettement mondial accéléré par la crise Covid, un endettement généralisé qui devrait atteindre en moyenne pour tous les pays de la planète 100% du PIB à l'horizon 2030 et ça devrait même encore s'aggraver. Pourquoi ?
Alors, écoutez, c'est assez simple. Il y a trois raisons principales pour lesquelles le niveau d'endettement public a augmenté et va continuer à augmenter. Le premier, c'est que, bon, évidemment, il y a des dépenses qui ont été assez importantes sur les dernières années. J'en ai parlé, les dépenses qui étaient nécessaires pour faire face à la crise de la pandémie, puis ensuite pour venir soutenir les ménages et les entreprises face à une envolée des prix de l'énergie. Donc il y a une partie dépenses qui maintenant doit être largement derrière nous et donc ces mesures doivent être supprimées. Ensuite, il y a eu un certain optimisme au niveau des prévisions qui ont été faites sur que ce soit la croissance ou les niveaux de dépenses ou de recettes fiscales et qui n'ont pas été nécessairement réalisées. Donc il y a un petit peu des mauvaises surprises. Et puis il y a aussi dans un certain nombre de pays, il y a des sources de dettes supplémentaires, si vous voulez, ce qu'on appelle des dettes non identifiées, qui viennent souvent de soutiens implicites qui sont fournis par les gouvernements à des entreprises quasi-publiques. Et lorsque ces entreprises quasi-publiques vont mal, ces soutiens doivent être matérialisés et viennent alourdir les comptes publics.
Là, vous parlez de situations dans les grandes puissances économique.
Alors, l'augmentation de la dette publique, on la voit à la fois dans les pays, les économies avancées, les pays riches, et on la voit aussi chez les pays émergents. Mais lorsqu'on regarde un petit peu plus près, en fait, elle est assez concentrée dans deux pays. Les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. Alors, ce ne sont pas les seuls deux pays qui ont des augmentations de dette dans les 5-10 années à venir.
Mais en volume, mais en tout cas, ça compte énormément.
en volume, ce sont ceux qui vont compter le plus. Et dans un contexte où les niveaux de dette sont élevés suite aux dépenses engagées les cinq dernières années, et donc un certain nombre de pays, même s'il n'y a pas de dégradation future qui sont prévues, restent dans une situation un peu vulnérable.
L'affaiblissement de l'inflation dont on parlait, l'affaiblissement aussi des taux d'intérêt, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, du point de vue de cet endettement? On va pouvoir emprunter un peu moins cher que ces deux, trois dernières années.
Alors, la baisse de l'inflation, effectivement, parce qu'elle permet un pivot monétaire qui est en train de s'effectuer. Donc, les banques centrales, les grandes banques centrales ont déjà commencé, la BCE, la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale aux États-Unis ont déjà commencé à baisser leurs taux directeurs. Elles vont continuer à le faire à mesure que l'inflation reflue. Et faire baisser les taux directeurs, ça va aussi amener à un coût de financement qui peut être plus faible pour un certain nombre de pays. Mais il ne faut pas se leurrer. Ce ne sera pas suffisant pour stabiliser les comptes publics. Il faudra faire des efforts plus importants sur ce qu'on appelle le déficit primaire, c'est-à-dire les dépenses de l'État en relation aux recettes hors service de la dette. Il va falloir qu'il y ait des efforts pour ramener ces déficits primaires vers des niveaux plus raisonnables.
Pierre-Olivier Gourincha, est-ce que vous êtes inquiet pour l'endettement dans les pays en développement et notamment en Afrique?
Alors oui, on suit ça d'assez près. Il y a un certain nombre de pays qui ont des niveaux d'endettement qui sont élevés. Certains d'entre eux ont à faire face à des taux d'intérêt qui sont assez élevés pour avoir accès au marché. Donc la situation n'est pas une situation de crise de la dette systémique pour l'instant. Il faut le dire. Donc il y a un certain nombre de pays qui sont en difficulté. Mais ce n'est pas une situation généralisée. C'est une situation compliquée et pour l'instant, la plupart des pays qui sont dans cette situation-là essayent de faire les efforts nécessaires. Évidemment, le Fonds monétaire essaie de les accompagner, de les aider à la fois par des financements, puis aussi en les aidant à mettre en place des politiques macroéconomiques, budgétaires, fiscales et monétaires qui sont appropriées pour justement éviter qu'ils soient en face d'une crise de la dette.
Dans ce sud global, comme on l'appelle, le FMI et la Banque mondiale d'ailleurs sont parfois critiqués pour leur attitude. On dit qu'ils imposent des conditions drastiques, des politiques d'austérité. Qu'est-ce que vous répondez, vous, aujourd'hui, en tant que chef économiste du FMI, au vu de la situation mondiale ?
Je dirais que, en fait, au niveau du FMI, je ne vais pas parler pour la Banque mondiale, hein, mais au niveau du FMI, nous faisons des efforts qui sont assez importants pour aider ces pays, les aider à être plus résilients, les aider à être plus stables et les aider à retrouver le sentier de la croissance. Et donc, je vais vous citer juste trois mesures que nous avons prises ces derniers mois, en fait, même ces dernières semaines, qui visent justement à faciliter les conditions macroéconomiques d'un certain nombre de ces pays. Donc, par exemple, on vient de boucler une réforme de notre fonds pour la réduction de la pauvreté et la croissance, qui permet au Fonds monétaire de faire des prêts à taux bonifiés, en fait, aux pays les plus pauvres. On a augmenté l'enveloppe de ces prêts à des taux bonifiés, si vous voulez. Donc, qui nous permettent, grosso modo, de prêter à l'avenir deux fois plus que ce qu'on prêtait avant la crise de la pandémie. On a réduit, il y a deux semaines, on a réduit aussi la charge d'intérêt que les pays doivent payer au FMI lorsqu'ils empruntent. Donc c'est ces intérêts qui reflètent un petit peu le coût de l'argent, évidemment, qui doit être versé, qui reste des taux de marché ou en dessous, très en dessous parfois. Mais on les a réduits d'environ 30%. Donc ça va être une réforme qui va être mise en place très rapidement aussi. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner une idée des mesures que nous prenons qui prennent en compte la difficulté qu'ont un certain nombre de pays pauvres, de pays en développement, et que nous essayons d'aider de la meilleure manière possible.
Et combattre ce déficit d'image, certains demandent aussi qu'on change les critères d'évaluation du risque financier et du risque budgétaire dans des pays et dans des continents comme en Afrique. Est-ce que vous êtes plutôt dans cette ligne-là? Est-ce que cette idée vous intéresse? Changer les critères d'évaluation?
Oui, alors on a des critères d'évaluation. Alors pour que vos éditeurs comprennent, enfin lorsque le Fonds monétaire prête aux pays, il faut s'assurer que les pays vont être en mesure d'être sur un sentier de croissance et de sentier macroéconomique qui leur permettra à terme à la fois de rembourser leurs dettes et puis d'accroître leurs perspectives de croissance. Donc on fait des revues de ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Il y a un certain nombre de critères pour ces revues, c'est un sujet un peu technique. Et régulièrement, il faut passer ça en revue, il faut faire une revue des revues, si vous voulez, pour s'assurer que on a les bons critères, qu'on prend bien en compte tous les facteurs importants. Et donc sur les pays en développement, les pays à revenus faibles, nous sommes en train effectivement de prendre ça en compte. C'est une évaluation de la soutenabilité des dettes publiques que nous faisons conjointement avec la Banque mondiale, et nous prenons ça en compte maintenant. Nous faisons une revue de notre analyse de soutenabilité.
Obligation d'évoluer effectivement avec la situation économique zone par zone sur cette planète. Merci Pierre-Olivier Gourincha.
Je vous remercie.
Chef économiste au Fonds monétaire international, merci d'avoir été en duplex de Washington à l'occasion des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale.
Écho d'ici. Écho d'ailleurs.
Sur RFI.
Washington, nous y retournons dans quelques instants pour aller plus loin sur cette thématique de la dette mondiale, comprendre ses mécanismes, comment dans tel ou tel pays elle peut évoluer avec le temps et avec les circonstances, comme le marché d'un produit agricole, notamment dans les pays en développement. Nous serons avec l'une des grandes spécialistes au cœur des négociations. Ce sera juste après ce duo, un Américain, Masego, et un Anglo-Ghanéen, Jules. Voici un titre qui nous va très bien. Perspective.
Jules, baby.
C'était Jules et Masego sur RFI.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Après donc avoir dressé le tableau général grâce à Pierre-Olivier Gourincha, économiste en chef du FMI, place comme promis à l'analyse d'une spécialiste de la dette mondiale. Bonjour Anne-Laure Kichel.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et la présidente de Global Sovereign Advisory. Vous êtes en ligne de Washington, des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale auxquelles vous participez, puisque vous conseillez des gouvernements. La dette est au cœur des débats. Est-ce que le réel montant de la dette mondiale est vraiment connu? Ou est-ce que ça n'est pas finalement encore plus grave que prévu, encore plus grave que les chiffres officiels?
Bon, alors on commence par une question facile, à ce que je vois. Alors, permettez-moi déjà juste de commencer par les chiffres officiels, si vous voulez bien, parce qu'ils sont importants et je répondrai après la question. Donc, au premier trimestre 2024, on a donc une dette mondiale. Alors, dette mondiale, il faut voir qu'on appelle ça, enfin, c'est dette publique et dette privée, hein, qui a dépassé les 310 000 milliards de dollars. Donc ça, c'est un plus haut historique en termes de valeur absolue. Hein. Par contre, ce qu'il faut toujours regarder, il faut toujours essayer de dire, mais c'est une dette par rapport à quoi ? Et si on essaye de le rapporter, par exemple, au PIB, avec toutes les imperfections hein, que ce ratio peut avoir et que le PIB peut avoir, là, il faut quand même qu'on ait en tête que ça représente 330%, alors c'est beaucoup, mais c'est plutôt en baisse par rapport à ce qu'on a pu avoir il y a quelques années. Bon. Donc ça, il faut qu'on le garde en tête pour mitiger un peu cette image de dette. Mais bien sûr, cette dette est extrêmement, extrêmement massive. Et c'est particulièrement le cas si on regarde la dette publique, puisque là, si on donne un ordre de grandeur dans ce que j'ai mentionné, les 310 000 milliards, eh bien, il y a 100 000 milliards de dollars qui sont de la dette publique. Alors, c'est intéressant de regarder où est cette dette publique. Cette dette publique se situe un peu beaucoup aux États-Unis, hein, 35 parmi ces 100. 16 sont de la dette chinoise, 13 sont de la dette euro. Et 10 sont de la dette japonaise. Donc c'est aussi pour dire que tous ces pays-là représentent, si on fait le calcul, la somme très rapidement, à peu près 3/4 de toute la dette publique mondiale. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Alors pour ne pas ignorer votre question, parce qu'elle est très importante, je pense qu'il est très difficile de dire qu'on a des chiffres de dette qui représentent tous les types de dettes, puisque il y a de la dette, bien sûr, des gouvernements, et au niveau central, il y a aussi la dette des entreprises publiques, il peut y avoir la dette des provinces, il peut avoir la dette des villes. Donc tout ça est en effet... Et puis il peut y avoir des garanties. Donc tout ça est en effet complexe. Bien sûr, les chiffres essayent de capturer la plupart de ces grandeurs, mais on peut se dire qu'il y a probablement une partie qui n'est pas capturée. Enfin, en tout cas, on est à chiffre égal par rapport aux comparaisons qui ont été faites les années précédentes.
Anne-Laure Kichel, vous avez commencé à donner quelques indications géographiques sur la provenance de cette dette. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, et puis vous avez parlé de l'Europe avec des situations assez diverses sur le vieux continent, mais globalement une aggravation des dettes publiques sur le sol européen.
Alors la situation est très disparate hein, parmi les pays parce que et elle est un peu même à contre-courant de ce qu'on peut avoir en tête. Vous vous souvenez de l'acronyme PIGS qui avait gentiment désigné les pays du Sud. Et en fait, ce sont finalement eux maintenant sur ces sujets de dette qui sont les bons élèves et qui ont des trajectoires de dette qui sont en baisse ou en tous les cas en maîtrise. C'est pas le cas de pays, et en particulier c'est pas le cas de la France, où le ratio de dette sur PIB a augmenté et était maintenant à 112%, et peut-être connaîtra-t-il des hausses encore supplémentaires avant de se réajuster.
Justement, Anne-Laure Kichel, puisque l'on parle de la France, je voudrais que l'on écoute quelques secondes au sujet de l'endettement de la France, le Premier ministre Michel Barnier devant les députés à l'Assemblée nationale.
La véritable épée de Damoclès est là, sur la tête de la France et des Français, dès aujourd'hui, et faute d'action, faute de courage maintenant, je suis sûr d'une chose, c'est que cette épée de Damoclès pèsera beaucoup plus gravement demain sur nos enfants et nos petits-enfants. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. 3 228 milliards d'euros. Et si on y prend garde, elle placera notre pays au bord du précipice.
La France au bord du précipice, dit le Premier ministre Michel Barnier. Faute d'action, ça veut dire, Anne-Laure Kichel, qu'il est possible de lutter contre la dette dans un pays comme la France ?
Oui, il est bien sûr possible d'ajuster. Je veux juste me méfier peut-être, et bien sûr les politiques ont des discours politiques. Je pense qu'en tant que technicien, il faut toujours dire les choses de manière extrêmement précise. Quand on parle de la dette, il y a le montant de la dette Et quand on parle de la dette, il y a les intérêts et il y a aussi la liquidité, qui est quelque chose évidemment de très important. Bien sûr, l'état des finances français n'est pas bon, c'est évident. Bien sûr, la dette augmente, c'est aussi également un fait. Les taux d'emprunt français restent par contre des taux d'emprunt qui sont encore bas, même s'il y a eu des flambées de spread qui après ont été plus maîtrisées, en particulier par rapport à d'autres pays européens. Mais, et c'est la manière dont la France s'endette, c'est-à-dire qu'elle s'endette extrêmement régulièrement dans les marchés et elle s'endette extrêmement régulièrement parce qu'elle, entre guillemets, roule sa dette pour, quelque part, rembourser de la dette qui arrive à maturité. Donc ce phénomène-là, qui est le phénomène important, puisque s'il avait un problème, il y aurait un problème de liquidité, fonctionne parfaitement, continue à fonctionner. Et donc, il faut bien distinguer dans ce qui est dit tous les sujets de liquidité, de financement, de capacité de financement qui restent intacts, quand bien même il y a pu y avoir un peu de surcoût de dette ces derniers temps. C'est important de dire « reste intact ». Et le montant de la dette que la France a, qui, au vu de l'état de l'économie française, est extrêmement élevé. Parce que je veux rappeler ici que les États-Unis ont beaucoup plus de dettes en termes de dette sur PIB. Même chose pour le Japon. Donc il faut se méfier de... Parce qu'on avait aussi un jour dit qu'on était en faillite si on dépassait 100% de dette sur PIB. Donc bon, il faut se méfier de tout ça. Ce qui est par contre certain, c'est qu'il y a un stock de dette qui est, et il y a une dette qui est importante, mais elle est importante, et c'est la manière de le dire, au regard de l'état de l'économie française et d'autres grandeurs qui sont finalement beaucoup plus préoccupantes que la dette, qui sont la croissance, qui reste molle, qui sont des recettes fiscales en baisse, qui était quand même la très mauvaise surprise hein, de ces derniers mois, et au-delà de ça, qui sont une balance commerciale, qui est un problème dont on parle finalement. On en parle, mais on en parle beaucoup moins qu'on parle de la dette, et on ferait bien de se poser la question et de regarder ça de manière beaucoup plus fine. Donc, je n'aime pas regarder les choses de manière absolue, radicale. La dette est forte par rapport à l'état d'une économie. Ce niveau de dette pourrait être tout à fait bon si l'état de l'économie était bien meilleur, mais probablement si l'état de l'économie était bien meilleur, la dette serait également en diminution.
On va aller rapidement chez le voisin de la France, l'autre grande économie dans la zone euro, c'est l'Allemagne. Vous avez dit tout à l'heure que les pays du sud de l'Europe étaient plutôt les bons élèves aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être inquiet pour l'Allemagne ?
Alors, il est clair que l'Espagne, le Portugal et même la Grèce tirent quelque part leur épingle du jeu. L'Allemagne, c'est tout à fait différent parce que c'est leur modèle économique qui est en train d'être revu. Donc, quand on le regarde en termes de dette, quand on le regarde en termes de dette sur PIB, ça ne semble pas du tout alarmant. Et on se dit, parce qu'ils partent évidemment d'un niveau très bas, donc ils peuvent tout à fait s'endetter. Ils ont en plus des règles très strictes qui limite aussi l'endettement. Donc, si on regardait que l'endettement, on pourrait se dire que ça va très bien. Bon, et non, ça va pas très bien. Il y a un sujet fondamental quant à l'économie allemande. Si je dis ça de manière extrêmement schématique, et je m'excuse de le dire comme ça, mais il y avait de par les sujets énergétiques et le fait de s'approvisionner en Russie, des taux et un approvisionnement qui était privilégié en termes de coûts. L'Allemagne a un modèle essentiellement exportateur, avec beaucoup d'exportations en Chine, qui là maintenant est beaucoup remis en cause par le fait que les Chinois ont depuis appris et mis en place de vraies industries, et donc ils n'ont plus besoin forcément d'importer autant de choses qu'ils importaient précédemment, donc ça joue sur les exportations allemandes, et tout ça dans un contexte dans lequel la machine allemande a été un peu lente à réagir et à s'adapter, étant particulièrement sur des industries traditionnelles, que ce soit par exemple l'automobile, hein, qui est un bon exemple. Et sur certaines de ces industries, il y a des transitions qu'il faut prendre rapidement et peut-être toutes les transitions n'ont pas été prises. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter fondamentalement de l'Allemagne ? L'Allemagne a des moyens de résistance extrêmement forts, un tissu industriel extrêmement dense, etc. Tout ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Mais le modèle allemand tel qu'il a été construit au cours des dernières années doit être revue. Bon. Donc là, la vraie question est, l'Allemagne en a-t-elle conscience? L'Allemagne est-elle en train d'agir? L'Allemagne va-t-elle se lancer dans probablement ce qui est nécessaire, c'est-à-dire un très grand plan de relance? Et qui dit plan de relance dit augmentation de l'endettement et dit donc justement quelque part un changement de manière de voir les choses et de traiter la question budgétaire.
Alors, puisqu'on parle de relance, des plans de relance, il y en a eu pas mal ces dernières années, surtout pendant et après le Covid. Est-ce que le désendettement post-Covid a débuté dans un continent comme l'Europe qui a été fortement touché d'un point de vue économique ?
Alors là aussi, les situations sont extrêmement différentes en fonction des pays. La réponse est oui pour certains, et on retrouve un peu ce qu'on disait sur les pays du Sud, Espagne, Portugal, et non pour d'autres qui ont eu plus de mal à s'ajuster, qui ont aussi eu des mesures de protection qui ont peut-être plus duré dans le temps. Donc c'est disparate et on ne peut pas répondre que ça a baissé aussi simplement que ça, puisqu'il y a eu après, pas juste la crise Covid, il y a après eu un choc énergétique, et donc et il y a eu le sujet d'inflation, donc tout ça a amené après à des mesures de soutien aux entreprises, aux particuliers, qui font que le désendettement n'est pas une tendance uniforme en Europe et beaucoup plus différenciée par pays.
Impossible d'individualiser effectivement ces événements. Anne-Laure Kichel, la présidente de Global Sovereign Advisory, spécialiste de la dette mondiale, est notre invitée dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs.
RFI, Radio France Internationale.
On va changer de continent, on va partir en Argentine, qui entretient une relation compliqué avec ce problème de la dette et avec le Fonds monétaire international, puisque la troisième économie d'Amérique du Sud est régulièrement forcée de se tourner vers Washington. La dernière fois, c'était en 2018, avec un prêt de 44 milliards de dollars que le pays doit toujours rembourser. Nous sommes avec notre correspondant Théo Conscience. Bonjour Théo.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
L'Argentine et le FMI, c'est donc une histoire de dépendance et d'éternel recommencement.
Oui, depuis 1956, l'Argentine a signé 22 accords avec le FMI et le ministre de l'économie argentin, Luis Caputo, était en début de semaine à Washington pour assister à l'Assemblée générale de l'institution financière et parler d'un éventuel nouvel accord. Il y a 8 ans, c'était déjà Luis Caputo qui, en tant que ministre des Finances à l'époque, avait négocié le prêt de 44 milliards de dollars que son pays doit aujourd'hui rembourser et qui reste le prêt le plus important de l'histoire du FMI. Entre-temps, ce prêt a été renégocié par le gouvernement précédent avec un nouvel accord et un nouveau calendrier de paiement jusqu'en 2033.
Cet accord que vous mentionnez a été signé en 2022, mais depuis, le gouvernement argentin et son orientation politique a radicalement changé avec l'arrivée au pouvoir de l'ultra-libéral Javier Milei.
Oui, après l'élection de Javier Milei en décembre, le FMI et la nouvelle administration ont défini de nouveaux objectifs en matière d'inflation, de déficit et d'accumulation de réserves en devises étrangères. Javier Milei a ensuite mis en place son plan tronçonneuse et son choc d'austérité avec une dévaluation de 50% du peso argentin et une réduction drastique des dépenses publiques de l'ordre de 5,6 points du PIB, avec des coupes dans les retraites, dans les programmes sociaux, dans les investissements d'infrastructures publiques et dans les dépenses d'éducation. Ce que le président argentin présente comme le plan d'austérité le plus important de l'histoire de l'humanité lui a permis de mettre fin au déficit fiscal dès le mois de janvier et même de dégager un excédent budgétaire et aussi de faire baisser l'inflation. De 25% mensuel au mois de décembre, on est passé à 3,5% au mois de septembre.
Théo, quand on regarde ces indicateurs macroéconomiques, on serait plutôt tenté de conclure que le plan Milei fonctionne ?
Alors effectivement, le choc d'austérité du gouvernement a permis d'atteindre et même de surpasser les objectifs fixés par le FMI. L'institution le souligne et s'en félicite régulièrement. Mais la question, c'est à quel prix ? L'économie argentine s'est contractée de 3,4% au premier semestre et surtout, la pauvreté a explosé. Depuis l'élection de Javier Milei, 5 millions d'Argentins sont tombés dans la pauvreté qui concerne désormais plus de la moitié de la population. La situation alarme jusqu'au sein du FMI qui, tout en reconnaissant les succès du plan économique du gouvernement, a insisté plusieurs fois sur la nécessité d'augmenter les aides sociales pour que la politique d'austérité ne retombe pas de manière disproportionnée sur les travailleurs et les secteurs les plus vulnérables.
Merci Théo Conscience. Je reviens vers vous, Anne-Laure Kichel. Ce cas argentin, comment analyser ce plan tronçonneuse, ce choc d'austérité et son efficacité pour réduire la dette ?
Alors l'Argentine est un cas extrêmement particulier. Et il y a peut-être un point qu'il faut qu'on mentionne ici, qui est les élections et donc le cycle politique argentin, parce qu'il est absolument majeur pour comprendre ce qui se passe en Argentine. Ce sont des mandats présidentiels de 4 ans, mais vous avez ce qu'on appelle une élection de mi-mandat. Et donc ça veut dire qu'en fait, vous avez souvent 2 ans pour travailler. Hein. Or, l'alternance politique en Argentine, en tout cas, c'est son histoire hein, au cours des dernières années, c'est souvent fait de manière extrême, on va dire, hein, d'un côté de l'échiquier, de l'autre côté de l'échiquier, avec des approches tout à fait différentes en fonction de qui est aux responsabilités. Et je dis ça parce que c'est quasi impossible de piloter un pays quand on a 2 ans pour piloter un pays et quand on a en fait des politiques qui changent du tout au tout tous les 2 ans. Donc ça explique beaucoup de la situation dans laquelle l'Argentine est. L'autre chose sur laquelle je veux beaucoup insister, c'est sur l'endettement argentin et sur la monnaie dans laquelle l'endettement argentin est fait. Bien sûr, ils ont le peso et puis ils ont des instruments de dette extrêmement complexes, mais beaucoup de l'endettement est fait en dollars. Et donc, pour eux, c'est fait dans une monnaie étrangère. Donc, vous avez un risque de change. Et c'est évidemment ça aussi qui peut aggraver la situation de la dette, parce que ce que vous avez à rembourser gagne tout d'un coup en valeur. Donc, une fois ça dit, mais c'est très important pour comprendre le cas argentin, bien là, ce que font les autorités, c'est en effet une thérapie de choc. Ils ont eu recours, alors celle-là, c'est un peu moins innovant, hein, à une amnistie fiscale. C'était exactement la même chose qui s'était passé dans des mandatures précédentes. Et donc ça a produit toujours à peu près les mêmes effets. On récupère quelques milliards. Là, ils ont récupéré 15 milliards de dollars. La dernière fois, c'était plus proche de 40. Donc vous voyez qu'on récupère déjà un peu moins. Donc ça donne des recettes fiscales un peu de manière exceptionnelle, hein, ponctuelle. Mais au-delà de ça, ça ne résout pas. Et c'est ça le sujet. Les problèmes fondamentaux de l'économie argentine, qui est extrêmement dépendante de ses exportations, en particulier en soja. Donc quand c'est des bonnes années d'exportation, bah, c'est très bien. Quand le prix du soja n'est pas au rendez-vous ou quand il y a eu des sujets climatiques, ça arrive également, bah, ça tout de suite, ça se ressent extrêmement fortement. Et puis l'inflation n'est pas encore du tout sous contrôle.
Donc vous n'êtes pas très optimiste sur la réussite de ce plan contre la dette argentine, vous êtes plutôt alarmiste comme au sein du FMI, c'est ce que disait Théo Conscience, notre correspondant.
Non, je suis prudente par rapport à l'Argentine parce que pour moi, le sujet fondamental est la stabilité de quelque gouvernement que ce soit pour mener une politique cohérente. Et c'est pas alarmiste, c'est tout simplement, c'est peut-être même plus grave, c'est structurel et le problème argentin est structurel et les thérapies de choc peuvent avoir des effets sur le court terme. Je doute qu'elles aient des effets sur le long terme.
Puisque vous avez parlé de l'interdépendance mondiale d'un point de vue monétaire, hein, la dépendance au dollar, c'est un phénomène qu'on observe aussi sur le continent africain où l'on parle en permanence de ce poids de la dette. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils aujourd'hui pour les pays africains, pour les pays en développement, peut-être plus généralement, pour sortir de cette spirale ?
Alors, votre question est extrêmement intéressante parce que, vous savez, la dette, c'est souvent une histoire où on n'invente pas grand-chose. Parce que quand vous regardez ce qui se passait même au temps des Romains ou au temps de Florence, c'est souvent les mêmes recettes qu'on trouve. Donc, quelles sont les recettes que les gens essayent d'appliquer actuellement? J'en donner 3. C'est plus de ressources qu'on appelle concessionnelles, ça veut dire des ressources financières à taux bas ou à taux bonifiés, donc de la dette à des conditions extrêmement attractive. Deuxièmement, c'est d'essayer de faire des instruments un peu plus structurés, que ce soit des instruments avec des garanties. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une notation, par exemple, de simple B, vous avez une entité qui serait double A ou triple A, qui vous prête, enfin, qui vous donne plus exactement une garantie. Et donc, votre qualité de crédit s'en retrouve améliorée. Et donc, vous empruntez, c'est le même résultat que le premier instrument, vous empruntez à des conditions qui sont améliorées. Donc, vous diminuez vos intérêts. Et puis, il y a des instruments encore plus innovants qui sont des swaps de dettes. Donc, c'est-à-dire, vous avez une dette par rapport à un autre pays, par exemple, et vous le swappez avec une dette qui est plus attractive, là aussi avec un coût plus bas. Cela est permis parce que vous pouvez utiliser les montants que vous économisez pour, par exemple, les investir dans des projets liés au changement climatique, liés à de l'éducation, liés à des sujets sociaux. Voilà. Donc ça, c'est un peu ce qui existe actuellement. J'ai envie de dire par rapport à ça que, comme les pays ont vraiment besoin de financement, puisque quand on parle de dette, on parle en fait de deux choses. On parle de solvabilité, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est trop endetté ou pas assez endetté, et on parle, et la dette est-elle soutenable, et on parle de liquidité. Bon, moi je me concentre toujours sur la liquidité parce que finalement un État a un problème s'il a un problème de liquidité. Bon, là-dessus, il y a évidemment des sources de liquidité importantes, en particulier auprès des institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI par exemple. Mais là-dessus, il y a un besoin extrêmement urgent de pouvoir débloquer ces poches de financement de manière extrêmement rapide pour financer des infrastructures, pour financer des projets sociaux, puisque un projet social ne peut pas se financer, enfin c'est en tout cas pas recommandé qu'il se finance à 10%. Donc c'est typiquement ces types de projets-là qui doivent se financer à des taux bonifiés. Et ce dont on a besoin, c'est de ressources abondantes pour ces projets, parce que c'est des projets qui aident au développement, qui aident à la croissance. Il faut que ces taux soient bas pour ces instruments et il faut que l'argent soit disponible rapidement et puisse venir dans l'économie. Donc c'est la rapidité et la simplicité des instruments qui, je pense, est quelque chose dont on a absolument besoin pour justement aider à la liquidité. Après, sur les questions de solvabilité, c'est des questions qui sont des questions beaucoup plus lentes à régler. Parce que comment est-ce que vous améliorez la solvabilité de votre dette ? Vous l'améliorez parce que vous améliorez vos recettes et vous améliorez parce que vous baissez votre dette. Je schématise. Hein. Mais les recettes, vous n'améliorez les recettes que, ça c'est si vous ne faites pas de découverte de pétrole, hein, mais vous améliorez vos recettes parce que vous êtes en capacité d'augmenter votre base fiscale. Si vous augmentez votre base fiscale, c'est parce que le pays est devenu plus riche. Soit parce qu'il y a une classe moyenne, soit parce qu'il y a des entreprises qui grossissent, etc. Par définition, c'est des mécanismes qui se font sur plusieurs années. Même chose, avoir de la croissance parce qu'on a diversifié son économie, par exemple, ou on a monté des chaînes de production, d'activité ou sectorielle, c'est pas des choses qui se font en quelques semaines, et voire même en quelques années. Ça se fait parfois en décennies. Donc ça, ce sont des rythmes lents côté des recettes. Et diminuer sa dette se fait tout simplement parce qu'on a amélioré son économie ou parce qu'on est capable de trouver des solutions innovantes pour baisser sa dette. Enfin, la plupart du temps, c'est plutôt par les recettes qu'on arrive à régler le sujet.
Et c'est naturellement plus facile quand il y a de la stabilité politique. Je dis ça par rapport au cas argentin qu'on évoquait tout à l'heure. Justement, c'est là qu'il faut évoquer la question centrale, rassurer les marchés, rassurer les investisseurs. La Côte d'Ivoire, par exemple, s'endette, mais le pari semble payant. On va voir ça avec l'un de nos correspondants à Abidjan, Abdulaziz Diallo. La croissance reste solide en Côte d'Ivoire. Les agences de notation, d'ailleurs, applaudissent la maîtrise du risque.
Route, pont, immeubles, électrification, accès à l'eau potable. La Côte d'Ivoire multiplie les projets visant à moderniser le pays et à asseoir sa position de hub sous-régional. Cette transformation ambitieuse pour soutenir la croissance repose en grande partie sur l'endettement. En effet, la dette publique a considérablement augmenté, passant de 38,4% du PIB en 2019 à 58,1% en 2023. Une hausse accélérée par la nécessité de faire face aux conséquences de la pandémie de la COVID-19 et à la crise russo-ukrainienne. Ces fonds ont permis de maintenir l'activité économique de la Côte d'Ivoire et de soutenir une croissance solide malgré un contexte mondial très difficile, explique l'économiste Youssouf Karius. Il est optimiste pour l'avenir. Pour 2024, le ratio dette-PIB devrait diminuer. En juin dernier, les autorités tablaient sur un taux de 55,2% en dessous du seuil de 70% fixé par l'UEMOA. Malgré cet endettement croissant, la Côte d'Ivoire se distingue par une gestion prudente et efficace du risque financier, ce qui lui a valu une réévaluation positive de sa note souveraine par l'agence S&P, passant de BB- à BB, avec une perspective stable. Pour consolider cette dynamique, le gouvernement mise sur des réformes fiscales pour réduire la dépendance à la dette extérieure et attirer plus d'investissements privés. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Notre correspondant sous la pluie d'Abidjan que l'on entendait. Anne-Laure Kichel, que penser du cas ivoirien de ce cycle apparemment vertueux ?
Alors, en effet, c'est très important de souligner qu'il y a eu, et la Côte d'Ivoire n'est pas la seule, hein, mais un rehaussement de notation de plusieurs pays de la zone. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, qui l'a fait de manière extrêmement régulière au fil des ans, j'y reviendrai, mais également le Bénin et également le Togo. Hein, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour l'intégralité de la zone. Mais si on revient au cas de la Côte d'Ivoire, le chemin parcouru au cours des dernières années est absolument incroyable ou remarquable en termes économiques. Puisqu'il n'y a finalement pas si longtemps, hein, c'est un peu plus d'une décennie, la Côte d'Ivoire était en restructuration de sa dette et a ensuite après commencé un travail de longue haleine. J'insiste vraiment beaucoup sur la longue haleine et sur la constance de l'effort qui a été mis auprès de travaux, auprès des agences de notation, auprès des investisseurs pour expliquer l'histoire, le crédit ivoirien, tout ce qui était fait, toutes les réformes économiques, tout le travail qui a été fait autour du climat des affaires, tout ce qui a été fait pour gérer la dette, les diversifications également des sources de financement, la maîtrise des taux d'endettement. Donc tout ça est un travail année après année, après année, après année, qui a été fait de manière cohérente. On parlait de court terme et on parlait de cycle politique extrêmement court en Argentine. Bah, là, vous avez un cycle politique long qui travaille avec continuité sur des fondamentaux.
Avec une élection présidentielle. Dans quelques mois en Côte d'Ivoire, d'ailleurs.
Absolument. Il ne faut pas oublier une chose importante. La Côte d'Ivoire bénéficie, c'est normal, de prix du cacao qui sont favorables. Hein. Donc la Côte d'Ivoire est une économie qui a la particularité d'avoir ce que je me permets d'appeler des ressources naturelles. Elle a également fait des découvertes dans le secteur pétrolier et elle a également un secteur orifère et minier qui est tout à fait prometteur. Donc c'est un pays qui a des ressources et donc qui a au cours des années, travailler autour de ces ressources et améliorer les revenus de ces ressources et en particulier diversifier au-delà de la source de recettes principales qui est le cacao. Et donc c'est ça aussi qu'il faut souligner. Mais c'est important de savoir ça parce que tous les pays n'ont pas la chance de pouvoir avoir des ressources naturelles dont ils peuvent tirer parti. Et donc c'est aussi une donne différente que l'on a quand on doit gérer et travailler à une économie.
Encore faut-il que ces ressources soient redistribuées équitablement. Un autre pays qui a restructuré sa dette et qui part de très très loin, c'est le Ghana, autre pays d'Afrique de l'Ouest, qui a restructuré ses emprunts avec l'ensemble de ses créanciers, que ce soit les pays occidentaux, la Chine ou des investisseurs privés. Le Ghana qui doit même recevoir une nouvelle tranche d'aide du FMI de 360 millions de dollars. Est-ce qu'on peut parler d'un miracle ghanéen ?
Je pense qu'on peut parler d'une situation ghanéenne qui maintenant en tourne une page, puisque le pays a connu des difficultés financières qui ont mené à la nécessité de restructuration de sa dette. C'est un exercice qui vient en effet d'être finalisé pour la partie qui concerne les créanciers publics et les créanciers obligataires. Et donc c'est évidemment une étape importante dans la restructuration de la dette du pays. Ce qu'il faut souligner pour le Ghana, parce que maintenant la nouvelle page hein, post-restructuration est à écrire, et maintenant ça leur appartient. Mais ce qu'il faut souligner par rapport au Ghana, c'est la rapidité avec laquelle cette restructuration a été faite. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui sera un atout pour le pays. D'autres pays, et par exemple, ça a été le cas de la Zambie, a eu une période très longue de restructuration de sa dette. Alors les gens se battent pour dire est-ce que c'est 4 ou 5 ans, mais c'est très très difficile pour un pays quand pendant 4 ou 5 ans vous travaillez à la restructuration de votre dette, ça bloque certains des investissements. Donc quand une restructuration se passe dans un horizon de temps beaucoup plus court, c'est tout à fait bénéfique pour le pays parce que ça permet après de repartir d'un bon pied et de retravailler après la relance de l'économie. Mais pour le Ghana, la manière de le dire, je pense, c'est de dire, bah voilà, une page est fermée, une nouvelle ère s'ouvre, et maintenant à eux de reprendre les choses et de pouvoir retravailler sereinement maintenant avec moins la pression de la dette.
Anne-Laure Kichel, une toute dernière question avant de vous libérer. Les défenseurs de l'environnement partout sur la planète trouvent que les grandes institutions financières internationales ont une vision justement très financière de l'économie et de la croissance. Avant tout, l'idée c'est de profiter de l'exploitation des ressources. Et donc, ça n'est pas forcément compatible avec les impératifs écologiques. Est-ce que ce paradigme est en train de changer du côté du FMI et de la Banque mondiale ?
Je ne suis pas forcément d'accord pour dire ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup plus d'initiatives dans les énergies renouvelables, par exemple en Afrique, que ce qu'on veut bien dire. Il y a beaucoup d'initiatives hydrauliques, géothermiques, et des pays qui mettent en place des projets extrêmement structurants pour eux-mêmes ou pour la région. On sait aussi que l'Afrique est la zone dans laquelle probablement les crédits, le potentiel de crédit carbone est le plus important. Donc ce qui est intéressant à voir, et c'est d'ailleurs tout le sujet et tout le paradoxe, et c'est toujours au cœur des discussions, c'est les pays qui ont des potentiels, en particulier pétroliers et gaz nouveaux, des découvertes, peuvent être après gênés dans le développement de ces champs pétroliers ou gaz en termes de financement, puisqu'il y a maintenant de moins en moins de financement disponible pour ce qu'on appelle ces vieilles énergies ou ces énergies fossiles. Or ça peut être un frein à leur développement parce qu'ils peuvent quelque part devoir se trouver se développer. Et donc, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des initiatives, encore une fois, très fortes qui sont faites sur des énergies renouvelables. Mais le vrai sujet et la manière de poser le sujet est la chose suivante. Les pays se sont développés sur des énergies fossiles. Et quelque part ont une responsabilité sur les sujets climatiques qui touchent toute la planète. Pour des pays qui sont des pays plus neufs sur ces sujets d'énergie fossile, ils ne voient pas de raison de ne pas continuer à développer leur énergie fossile. Et tout ça est très naturel, bien sûr. Et donc, en raison de cela, ils vont le développer, ils continuent à le développer. Ils le font dans des conditions qui sont encore une fois plus difficiles parce que l'accès au financement pour ce type de projet est moins fort puisque l'essentiel des financements est dirigé vers les énergies renouvelables. Mais je veux dire combien les énergies renouvelables et les initiatives d'énergie renouvelables en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde, sont extrêmement fortes. Et il y a peut-être une idée reçue qui laisserait à penser que ces initiatives sont moins fortes en Afrique que sur d'autres continents. Ce n'est pas du tout le cas.
Une autre vision du monde pour sortir de cette problématique de la dette. Grand merci, Anne-Laure Kichel, d'avoir été en ligne avec nous de Washington.
Merci à vous.
Anne-Laure Kichel, la fondatrice et la présidente de Global Sovereign Advisory.
Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure.
Ces enjeux de dette, ces enjeux monétaires, énergétiques, climatiques et bien d'autres, il en sera question les 31 octobre et 1er novembre à Marrakech, au Maroc, où se tient le Choiseul Africa Business Forum 2024, dont RFI est partenaire. Un événement qui réunit, comme chaque année, des décideurs sur le continent, mais aussi des décideurs européens, du Golfe, des dirigeants d'entreprises, des bailleurs de fonds, des dirigeants politiques, des chefs d'État, des ministres, des représentants des milieux d'affaires. Le tout organisé par l'Institut Choiseul, présidé par l'économiste Pascal Leroux, qui nous accorde quelques minutes de son temps. Bonjour Pascal Leroux.
Oui, bonjour.
L'Institut Choiseul, un laboratoire d'idées français tourné depuis 10 ans vers l'Afrique. Quel bilan vous faites de cette décennie par rapport à vos objectifs initiaux ?
Alors, chez Choiseul, effectivement, on fête un anniversaire. C'est le 10e anniversaire de notre engagement en Afrique, avec cette volonté relativement forte qui était la nôtre de s'engager sur un continent qui est un continent d'avenir, qui est un continent dont l'Europe ne peut pas faire abstraction, car je crois que l'avenir du continent africain et du continent européen sont intimement liés, et un continent sur lequel, finalement, il y a une masse énorme de talents, de jeunes dirigeants, finalement, qui sont en train de changer et d'accélérer la dynamique économique du continent africain. Donc, notre objectif, il y a à peu près 10 ans, était de porter un regard neuf, essayer de mettre en valeur un petit peu tous les atouts qu'avait l'Afrique il y a 10 ans et qu'a encore l'Afrique aujourd'hui. Et ce continent est en train de se transformer très, très radicalement. Il se transforme grâce à quelque chose qui est disponible en abondance à l'échelle du continent, c'est cette main-d'œuvre qualifiée, tous ces jeunes talents qui sont en train d'innover, de créer des entreprises, de développer des partenariats entre eux, en un mot, de porter l'Afrique au firmament et de la propulser dans l'extrême modernité. Et donc, c'est ce qu'on a lancé il y a 10 ans, un classement, le Choisir 100 Africa, qui visait à identifier les 100 plus jeunes et plus méritants talents à l'échelle du continent africain. Au fil du temps, ce classement est devenu une communauté avec ces jeunes dirigeants qui se sont rencontrés aux quatre coins du continent, en Égypte, en Angola, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Maroc et ailleurs. Et une vraie communauté a émergé, avec des gens qui ont appris à se connaître. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait au fil du temps et qui aujourd'hui comprend, au sein de cette communauté Choisir l'Africa, à peu près 900 jeunes dirigeants. Certains, normalement, sélectionnés lorsqu'ils ont moins de 40 ans, mais certains ont vieilli. Donc, on va dire 900 personnes qui participent d'une communauté de dirigeants économiques qui ont entre aujourd'hui 35 et 45, 46 ans.
Et on va revenir dans quelques instants sur le classement 2024. Avant cela, si vous aviez, Pascal Leroux, un moment de ces 10 dernières années à retenir, une idée qui a émergé, une discussion particulièrement marquante lors de l'un de vos forums.
Alors, moi, ce qui ressort à la fois des forums et surtout de cette volonté que l'on a eue de mettre ensemble, finalement, des jeunes dirigeants qui ne se connaissaient pas, eu égard à la dimension quand même de l'Afrique. Quand on est en Tanzanie, comment pouvoir connaître et rencontrer ses alter-ego au Maroc, en Gambie, au Nigeria ou en Namibie? Eh bien, c'était cette dynamique qu'on a créée et on a permis à beaucoup de ces jeunes dirigeants africains de devenir vraiment africains, alors qu'ils étaient plutôt enracinés dans une géographie. On leur a permis de rencontrer des hommes et des femmes, eux aussi dirigeants, entrepreneurs, innovateurs, qui eux aussi transformaient leur région, leur sous-région ou le continent. Et ça a permis de créer des réseaux. Et ces réseaux ont créé finalement des opportunités qui sont traduites par des partenariats, par des contrats, par des accords, par des projets développés en commun. Donc, il n'y a pas un élément précis pour répondre à votre question, mais je dirais une multitude d'opportunités qui ont émergé grâce à ces rencontres très positives et très utiles et qui ont permis à l'Afrique de progresser et d'avancer encore davantage.
Donc chaque année, Pascal Leroux, vous publiez un classement, le Choiseul 100 Africa, qui met en lumière les talents émergents. On va tout de suite rompre le suspense. Qui est le lauréat de cette année 2024 et surtout pourquoi lui?
Alors, le lauréat, donc le numéro 1 de ce top 100 2024 s'appelle Abdoulaye Bachir et il vient du Nigeria. Donc c'est un anglophone qui a 37 ans, qui a la tête d'un groupe d'investissement assez important. Vous savez qu'au Nigeria, il y a quand même de très belles entreprises, des entreprises qui ont un poids économique relativement important, qui structurent également leur écosystème, que ce soit dans un domaine sectoriel ou sur des bases géographiques. Donc, cette année, on honore donc Abdoulaye Bachir, qui, je l'espère, normalement devrait être à Marrakech à la fin de la semaine.
Ce qui marque dans ce classement des 100 talents émergents en Afrique, c'est la forte présence de jeunes dirigeants marocains.
Oui, alors c'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment. Finalement, le Maroc est quand même une des économies les plus développées à l'échelle du continent africain. C'est également un pays où vous avez une multitude d'instituts ou d'écoles de formation supérieure. Et c'est vrai que l'éducation est un axe stratégique relativement fort dans le royaume du Maroc. Il n'est pas surprenant que finalement, cela ait permis de faire émerger un certain nombre d'entrepreneurs, d'acteurs économiques de premier plan. Ah bah, il n'y qu'à voir, pour se rendre compte quand même, le grand nombre de grandes entreprises marocaines qui aujourd'hui se retrouvent aux quatre coins du continent africain à investir, à développer des partenariats et des coopérations. Donc, ce n'est pas surprenant que les Marocains soient présents de manière assez importante. Mais ils ne sont pas les seuls. On a des représentants de toutes les nationalités africaines. Le Choix du Sang Africa, cette communauté de presque 900 dirigeants, c'est à peu près 51 pays sur les 54 que compte le continent qui sont couverts, qui sont représentés par 1, 2, 3, 5, 10, 20 ou 50 de leurs nationaux. Donc, on a vraiment une empreinte qui est panafricaine et une empreinte qui n'est ni trop francophone ni trop anglophone. Finalement, sur la cohorte, un peu des lauréats Alumni Choiseul Africa, vous avez en gros, on va dire 50% de francophones, 50% d'anglophones.
Alors cette année, la première personnalité issue d'un pays francophone d'Afrique subsaharienne, c'est une femme, Joanne Akazagoté. C'est la secrétaire générale du groupe Avos. Elle est 9e du classement, juste devant Lamine Mohamed Seck, qui est l'un des dirigeants de SF Capital et qui est lui aussi ivoirien.
Tout à fait. Et on a aussi un souci qui est tout à fait naturel et que tout le monde comprendra dans nos classements, c'est aussi de promouvoir les femmes. Donc, il n'est pas surprenant quand même que la première Ivoirienne cette année soit une femme, parce qu'en Côte d'Ivoire, vous avez aussi beaucoup de talents, beaucoup de dirigeantes, pas seulement des dirigeants, qui sont au cœur un peu de la dynamique économique de la sous-région.
Dernière question, Pascal Leroux, on va parler de ce Choiseul Africa Business Forum 2024 à Marrakech. Quels sont les principaux invités et que faut-il en attendre?
Les principaux invités, vous savez, c'est assez simple de répondre. Nous, on a un axe stratégique qui est de privilégier les CEO, les dirigeants d'entreprise. Donc, notre objectif, c'est effectivement d'avoir un véritable forum d'affaires avec de véritables décideurs économiques qui sont capables d'engager la responsabilité de leurs entreprises. Donc, c'est un forum qui est très focus sur comment créer des opportunités d'affaires et comment faire en sorte que ces opportunités se traduisent par des choses très concrètes. Donc, on est très tourné business et donc là, on a une multitude de dirigeants d'entreprises qui viennent d'à peu près tous les pays du continent, plus effectivement des Européens, des gens issus du Golfe et autres. Et à côté de cela, on a une tradition, c'est d'avoir toujours un chef d'État qui vient honorer de sa présence et inaugurer l'événement, donc le forum. Et cette année, on aura le président du Guinée-Bissau. Voilà, donc la personnalité phare pour ouvrir le forum, ce sera effectivement le président de Guinée-Bissau. Au-delà de tout ça, on aura bien sûr une cohorte et un nombre assez important de ministres qui vont venir d'une multitude de géographies. Je crois qu'on doit avoir à peu près 60 ou 70 ministres qui vont être là, venant de Guinée, du Cameroun, du Kenya, du Maroc bien sûr, du Sénégal, de RDC et d'un certain nombre d'autres pays. Mais je me répète, c'est vraiment, et ça pour le comprendre, le Choiseul Africa Business Forum, c'est vraiment un forum d'affaires. Et ce qui fait la réussite jusque-là de nos quatre éditions qui se sont déroulées au départ en France et ensuite au Maroc, c'était cette capacité que nous avons eue de permettre aux uns aux autres de se rencontrer de manière très conviviale, de manière très agréable, pour qu'ils puissent bâtir des projets en commun.
Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui a présidé la CDAO, avant de céder la place au président nigérian Bola Tinubu, et qui s'apprête à quitter le pouvoir l'année prochaine. Merci à vous, Pascal Leroux.
Merci à vous, merci beaucoup, Bruno Faure.
Merci d'être intervenu dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avant ce Choiseul Africa Business Forum 2024. Et merci à vous toutes et à vous tous de nous être fidèles. À la semaine prochaine, ce sera un grand invité de l'économie avec nos partenaires de Jeune Afrique. Restez à l'écoute, restez connectés. Un nouveau journal tout de suite sur RFI.
Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.